Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour en nombre, donc suite à la chronique très intéressante d'Enzo, on va poursuivre sous la forme d'une discussion ouverte.
Ouais, justement, là, ben, j'ai suite à justement à tout ce que tu as dit, Enzo, moi j'ai vu dernièrement là, qu'il y avait eu un appel de plus d'une cinquantaine d'organisations écologiques en soutien à la colère des agriculteurs tels que Terre de lutte, France Nature Environnement, Extinction Rébellion, Greenpeace. Je ne sais pas, est-ce que tu as vu, toi, des actions, par exemple, très concrètes de ces groupes-là en France? Là, je te relance la parole directement.
Et merci, mais oui, c'est très intéressant et c'est majeur, en fait, le sujet que tu lances, la cause environnementale. Effectivement, on a pu voir, en fait, dans les médias français ou dans les médias tout court, qu'il y avait une espèce d'opposition qui pouvait s'installer entre les agriculteurs et les écologistes. Certaines prises de parole disaient que c'était à cause des mesures environnementales ou de la mouvance écologiste que cette crise-là se développait. Moi, je veux quand même rappeler aux gens que c'est pas les écologistes hein, qui sont au pouvoir depuis 30 ans. Ils ont jamais été au pouvoir d'ailleurs. C'est par rapport aux mesures libérales et les mesures d'austérité sur les agriculteurs qui a lieu depuis des années et des années. Deuxièmement, effectivement, là, tu parles d'organisations écologiques qui soutiennent, et c'est intéressant. Mais en fait, la chose, c'est que comme c'était des mesures qui pouvaient paraître écologiques, un peu comme la taxe carbone, mais qui en réalité, si tu mets pas d'alternative à ces mesures-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt et d'impact écologique, en réalité. Donc oui, c'est vrai qu'interdire le glyphosate ou interdire certains phytosanitaires, pouvait paraître écologique. Bon, encore ça, c'est discutable parce que tout un tas de produits phytosanitaires sont tenus par des lobbies qui sont souvent en lien avec le gouvernement. On voit que le glyphosate, justement, son interdiction a été repoussée en 2027. Donc, au-delà de l'interdiction de produits phytosanitaires, c'est plus que, encore une fois, c'est plus la concurrence entre le fait que la France ne peut pas utiliser certains produits et que les pays étrangers peuvent et vendent leurs produits sur le territoire à moindre coût. Au-delà de ça, on peut effectivement faire une convergence des luttes entre la lutte des agriculteurs et la cause environnementale. Et donc, je comprends effectivement, et c'est presque même logique, que ces organisations écologiques signent cette tribune en lien avec les agriculteurs. Parce qu'effectivement, c'est toujours intéressant de vouloir interdire, en ce moment on est vraiment dans ça, dans les politiques d'austérité. Alors on veut interdire le nucléaire, on interdit les phytosanitaires, on veut interdire, c'est tout un tas de choses qu'on entend, on veut mettre la taxe carbone sur les gens qui utilisent l'essence, mais il y a rarement d'alternative. Et en fait c'est ça, faire des mesures d'austérité, faire des interdictions sur le papier, ok, mais s'il n'y a pas d'alternative pour les travailleurs, c'est un vrai problème. Et là on le voit pour les agriculteurs, bah, c'est un vrai problème parce que leur interdire l'utilisation de produits phytosanitaires, mais en faisant baisser leur coûts et en faisant rentrer des concurrents déloyaux sur leur territoire, qui fait qu'ils auront impossibilité de vendre leurs produits, il y a un vrai problème. Alors que le fait que des organisations écologiques entrent dans ce débat, c'est intéressant parce que c'est eux qui pourraient nous offrir cette alternative. Et oui, il faut interdire en fait le glyphosate. Oui, il faut interdire les produits de Monsanto qui stérilisent nos plantes et qui détruisent notre écosystème. Mais il faut une alternative. Parce que s'il n'y a pas d'alternative, bah, y a ce qui se passe en ce moment. S'il n'y a pas d'alternative à cette taxe sur le carbone, bah, les gens qui l'utilisent bah, auront des problèmes. Et souvent, ces travailleurs ou ces agriculteurs ne peuvent pas aller eux-mêmes chercher ces alternatives qui sont coûteuses. Donc oui, il faut des alternatives. Il faut un développement à moindre coût, peut-être du bio. Ou il faut peut-être, et c'est la revendication principale, il faut imposer aux grandes entreprises phytosanitaire, au lobby dont Monsanto, Bayer, aux grandes entreprises agroalimentaires, il faudrait peut-être imposer ça sur une échelle bien plus grande et interdire la production et la vente d'entreprises qui ne le font pas. Donc voilà, c'est tout un tas de... Donc réfléchir à des alternatives, réfléchir à comment bloquer ces pays et ces entreprises qui ne respectent pas ces normes environnementales. Et lier effectivement et faire converger la lutte environnementale et la lutte sociale, car elles sont liées complètement.
Oui, c'est ça, parce qu'à la fin de la journée, on a besoin de ces agriculteurs-là, on a besoin justement qu'ils travaillent, il faut les aider dans ce sens-là. Puis tu sais, oui, comme tu disais, c'est super important au final d'interdire le glyphosate, parce que si je me souviens bien, notamment c'est cancéreux. C'est cancéreux, il va falloir les interdire, mais on peut pas juste dire aux agriculteurs, excusez-moi l'expression, mais démerdez-vous, vous avez plus le droit d'utiliser ça, puis il n'y a pas d'autre alternative. Il leur faut des moyens d'être capable de maintenir un certain niveau d'efficacité de production face justement au commerce international. C'est nécessaire. Puis, tu sais, si je me souviens bien, là, ça a été un des grands sujets de renégociation de l'ALENA, justement, par rapport au lait québécois, je crois, là, si je me souviens bien, pour que... D'ailleurs, on a perdu, justement... le commerce du lait québécois a perdu, justement... de la place, et justement il y a des laits américains maintenant qui sont sur les étagères comme ça, fait que j'imagine c'est un petit peu dans la même idée là. Il faut protéger justement nos producteurs agroalimentaires
là. Mais complètement, on parle de la France parce que c'est vrai que ça a un raisonnement particulier, parce que le mouvement social il est gros, il est puissant, il est impactant. On voit qu'il y a eu des actions qui ont été assez virulentes de la part des agriculteurs. Après ça c'est un autre débat, hein. Est-ce qu'on est en accord ou pas avec les actions, c'est un autre dégât. En tout cas, les revendications, elles, sont complètement légitimes. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la France, parce que les actions sont importantes. Mais effectivement, cet enjeu-là, il est international. Comme tu le dis, on voit la même chose sur le territoire canadien, sur la concurrence entre les produits canadiens et les produits américains, qui, les produits américains, ont également moins d'interdictions et sont vendus à moindre coût également. Et c'est pareil sur toute l'Europe. On voit que les agriculteurs néerlandais et allemands aussi subissent la même austérité et la même concurrence déloyale, et d'ailleurs rejoignent la mobilisation. Et là, ce matin, parce que c'est un sujet intéressant, mais qui évolue constamment. Donc là, je parle, mais peut-être que dans deux heures, ça évoluerait différemment. Ce matin, en arrivant à la radio, il y a eu une nouvelle qui est tombée, comme quoi les agriculteurs et les syndicats espagnols annonçaient rejoindre le mouvement français et le mouvement européen général. Donc oui, en fait, cette mondialisation et cette globalisation du marché fait que cet enjeu-là est un enjeu international. Ouais.
Puis c'est ça, ne soyez pas surpris là à la maison, justement, qu'il y a une augmentation que vous pouvez considérer outrageuse du prix de l'épicerie. C'est directement en lien avec ça. Là. C'est
L'inflation est une des conséquences de cette concurrence déloyale. Effectivement.
Il y a aussi un enjeu, comme vous mentionnez, les gars, de sécurité alimentaire, c'est qu'elle importe beaucoup des produits alimentaires qu'autrefois, avant, elle était autosuffisante, qu'elle pouvait... c'est ça, qu'elle était autosuffisante, excuse.
Tu parles dans cet import-export qu'on est rentré dans un marché...
Exactement. Je lisais récemment que la France importe aujourd'hui 70% de ses fruits, 30% de ses légumes et 50% de ses poulets. Alors qu'elle le faisait pas il y a une décennie ou deux.
Ouais, c'est clair. De ce que j'ai entendu de beaucoup de revendications, c'est que beaucoup parlent de revoir en fait les traités, parce que là on n'est plus sur des traités de libre-échange. C'est pas l'idée des traités, là c'est complètement libre et les importateurs, les exportateurs font ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui parlent de revoir ces traités, d'y mettre plus de règles en fait, de voir qu'est-ce qu'on importe, qu'est-ce qu'on exporte, de quoi nous avons besoin, qu'est-ce qui est nécessaire. Il y en a qui parlent de revoir quels produits exotiques seraient sur le territoire, ces choses-là. Mais en même temps, il faut aussi qu'on traite avec cette mondialisation. Parce que je parlais encore, est-ce que la politique de l'interdiction est encore valable, ou moi, je pense que ce qui serait intéressant, ce serait des alternatives. Encore une fois, parce que je pense que on pourra pas priver demain matin les gens de produits étrangers, comme d'interdire du jour au lendemain le café, les ananas ou le. Je pense qu'il faut réussir à pallier à ce problème avec des alternatives plus qu'avec des mesures d'austérité, parce que dans la mesure actuelle, ça serait compliqué d'imposer ces mesures d'austérité. Après, ces alternatives, justement. Comme disait mon collègue tout à l'heure, je pense que ces alternatives, il faut les lier entre la crise sociale, environnementale et agricole. C'est vers ça que doivent aller ces alternatives.
Que justement, là, qui va refuser de ne pas avoir qui va être capable de se priver d'avocat là, d'ici demain là, t'sais. Tout le monde consomme des avocats, puis je tiens à dire, c'est absolument délicieux, là. Mais probablement un des produits les plus terribles, justement, là, à consommer, à encourager, justement.
Le soja.
Ouais, tout ce qui a rapport à ça, c'est un peu terrible. Mais c'est qu'on est rendu habitué avec ça. Et justement, c'est pour ça qu'il y a eu comme plein d'encouragements, justement, à acheter des produits saisonniers, là, dans les dernières années. Donc, tout ce qui se produit en saison, notamment dans ton propre pays ou dans ta propre région. Là.
Mais c'est un vrai débat. Est-ce que le problème, c'est la mondialisation? Bon, finalement, qui a peut-être un côté... Pas forcément la mondialisation libérale avec tous ses intérêts, mais le fait d'avoir des produits qui viennent de l'étranger à une vitesse assez grande, certains pourraient voir ça comme un progrès. Et le problème, est-ce que c'est cette mondialisation? Ou le problème, est-ce que c'est ce dont je parlais tout à l'heure, qui sont les grandes entreprises et les de l'agroalimentaire, les grands magasins de l'agroalimentaire qui augmentent leur marge de profit et qui profitent de la crise inflationniste pour augmenter leur marge de profit tout en réduisant celle des agriculteurs. Est-ce que le problème, ça serait pas plus ça, en fait, que l'importation de produits étrangers, finalement? Ou est-ce que le problème, ça serait pas justement la libéralisation des produits phytosanitaires développés par les grandes entreprises phytosanitaires? Donc voilà, est-ce que et aussi de revoir qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on surproduit, qu'est-ce qu'on sous-produit?
Donc, bonjour à tous. On est de retour en onde. Aujourd'hui, on a une entrevue avec Mme Sabrina Doyon, qui est chargée de projet à conservation de la nature Canada. Mme Doyon, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Oui, merci, vous?
Oui, pareillement.
Oui, donc c'est ça, vous allez être interviewé aujourd'hui par Marc-Antoine, moi-même, Jérémy et mon collègue Enzo. Donc en fait, ouais, vous êtes chargé de projet à CNC. Puis aujourd'hui, ça, vous venez nous parler de l'achat de terrain à Am-Sud et Am-Nord. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu, c'est quoi justement ce projet-là, en fait, d'acheter les terrains?
Oui, ben dans le fond, Conservation de la nature du Canada est un organisme de conservation. C'est un organisme de charité là, qui œuvre vraiment à la protection des milieux naturels au Canada. Donc, on a des bureaux d'un océan à l'autre, là, si je peux me permettre. Là, on a des bureaux dans la majorité des provinces où on travaille à la protection des milieux naturels les plus importants là, pour les secteurs. Moi, je travaille dans le secteur, entre autres, de l'Estrie et du Centre du Québec, où nous avons protégé un nouveau territoire de 516 hectares, ce qui est quand même très, très gros, là, pour donner une idée, là. C'est plus de 3000 terrains de hockey. C'est la saison du patin, là, donc ça vous donne une idée, là. On peut faire du patin longtemps sur ce site-là. Je fais des blagues, là, mais c'est quand même un très, très, très gros site, puis qui est super intéressant, c'est qu'on y retrouve plusieurs types de milieux, autant des milieux forestiers au niveau des peuplements de feuillus, des peuplements mixtes, de résineux, mais également des milieux humides. Donc, ça crée vraiment une belle mosaïque d'habitats. Et puis, l'autre élément qui est intéressant, c'est que la propriété est adjacente ou même une portion de la propriété qui est nouvellement protégée, qui fait partie du parc régional du Mont-Am. Donc, avec la protection de ce nouveau territoire-là, on vient créer vraiment un gros, gros, gros noyau de conservation là, dans le secteur.
Merci. Merci. Enzo, enchanté, chroniqueur à l'émission.
Bonjour.
J'avais quelques questions aussi. Moi, c'était est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est déroulé l'achat de cet habitat protégé et comment se déroulent les transactions lorsqu'il s'agit de la CNC, justement? Et une troisième petite question dans la question. Est-ce que le projet, est-ce que ce projet-là était en attente depuis longtemps?
Oui, donc beaucoup de questions, je vais essayer de toutes y répondre. Dans le fond, il y a différents mécanismes qui peuvent être utilisés pour protéger des territoires. Dans ce cas-là, ça a été une acquisition, mais ce n'est pas toujours le cas, même si c'est pas ce qui est privilégié. On peut avoir aussi des situations où ça va être des dons de terre, des dons écologiques. Il peut avoir aussi des servitudes qui peuvent être mises en place. Donc, dans ce cas-là, ça a été une transaction en plein titre, donc une acquisition qui a été faite. C'était un projet qui était en branche, je pourrais dire, depuis quand même plusieurs années. Nous, on a travaillé beaucoup avec les partenaires locaux là, pour la protection de ce territoire-là, entre autres la MRC des Sources, qui est, entre autres, responsable du parc régional, comme la nouvelle aire protégée, une portion fait partie du parc régional. Il y avait déjà eu des discussions entre les anciens propriétaires et le parc pour, par exemple, des droits de passage ou certains usages là, en lien avec le parc sur le site. Puis, le propriétaire n'était pas intéressé, mais il a dit, ben nous, on est prêts à vendre. Donc, de là, nous, on s'est intégrés au projet avec la MRC des Sources, le parc régional, pour venir faire d'une pierre deux coups, là, donc venir consolider le territoire du parc, mais aussi protéger là, un vaste habitat dans le secteur. Donc, ça faisait là, déjà plusieurs années, puis nous, à partir du moment où on a été impliqués, ça a pris quand même un certain temps là, de tout en tout, là, peut-être un an et demi environ là, pour concrétiser la protection de ce site-là. Donc, ça répond à une partie de vos questions. C'était quoi? Excusez-moi, là, il y en avait plusieurs, donc...
non, c'était ça, vous avez bien répondu. Ben, merci bien, c'est parfait. Je vais laisser mon collègue Marc-Antoine poser une question sur l'écosystème de ces territoires. Merci à vous.
Parfait.
Qu'est-ce qui a capté l'attention de votre organisation dans l'achat de ce territoire? Était-ce le milieu humide qui offre ses terres ou encore la plante rare considérée comme étant menacée, soit la... Polémoine de Van Brunt?
Oui, ben c'est un peu toutes ces réponses. D'une part, je pourrais dire qu'il y a peut-être deux ou trois éléments principaux. Premièrement, il y a la taille du site. Donc, comme je disais tantôt, ça crée vraiment un grand noyau de conservation. Puis d'avoir des grands sites protégés, c'est super important pour plusieurs espèces à grand domaine vital, par exemple. Mais aussi au niveau de la connectivité écologique. Donc, ce site-là, il fait partie d'un grand corridor écologique qui est super intéressant là, dans le contexte des changements climatiques auxquels on fait face actuellement. Ça vient vraiment faciliter le déplacement des espèces floristiques, mais aussi fauniques. Donc, ça, c'était un élément qui a capté notre attention. Le deuxième élément, je dirais que c'était vraiment une de nos cibles de biodiversité dans ce secteur-là, c'est la polémoine de Van Brunt, comme vous l'avez mentionné. La polémoine, c'est une petite plante qui est menacée, dans le fond, autant au Canada, sous la loi canadienne, que québécoise. Puis, la raison pour ça, c'est que au Québec, on la retrouve à comme 8 endroits, tous au centre du Québec et en Estrie. Puis, sur la propriété qui est maintenant protégée, on a cette plante-là. Donc, c'est un des 8 endroits où on la retrouve. Donc, au niveau de la survie de l'espèce, de venir protéger cet habitat-là, de ce site-là, ça a un grand impact. Donc, ça, c'était aussi là un autre des éléments qui a beaucoup motivé, finalement, là, notre implication dans ce projet-là.
Et c'est parfait. Une petite question comme ça, justement. C'est la polémoine de Van Brunt, c'est comme ça qu'on la prononce?
Oui.
On va dire, OK. Merci d'acquiescer. J'apprécie beaucoup.
C'est pas la plante la plus fun à prononcer, encore moins en anglais.
Oui, non, c'est ça, exact. Est-ce qu'elle est protégée ailleurs en ce moment ou simplement, là, c'est la première fois qu'on réussit à la protéger au Québec?
Non, cette espèce-là, dans le fond, au Québec, dans le fond, les organismes travaillent, puis le gouvernement, là, tous les partenaires, les gens au niveau local même, là, les petits organismes, mais aussi les particuliers, tout le monde a fait énormément d'efforts dans les dernières années pour venir sécuriser cette espèce-là, donc sécuriser dans le sens la maintenir, là. Ce qui fait que les populations se portent bien grâce aux efforts collectifs qui ont été mis en place pour protéger l'espèce. CNC, dans le fond, nous, on protège deux sites où on retrouve la polémoine là, déjà. Donc, l'espèce va bien dans les circonstances, mais il faut pas ménager les efforts parce que si on perd un endroit où elle se retrouve, ben tu sais, comme je disais, il y en a 8, là, fait que c'est 1 sur 8, ça descend vite. Donc, Dans le fond, elle est protégée à plusieurs endroits. Là, je pense que la majorité des occurrences actuellement de l'espèce sont protégées, là, justement pour en assurer la survie. Là.
Eh bien, merci. Merci merci pour votre réponse. Je voulais aussi savoir, plus une question par rapport au secteur d'activité et à l'emploi. Je voulais savoir si ce nouveau territoire allait créer des emplois dans votre secteur ou votre organisation ou votre organisation confère davantage de tâches à des employés présentement en poste.
Oui, je dois dire que c'est pas juste l'acquisition de cette propriété-là, c'est pas juste la protection de ce site-là qui a fait les choses, mais dans les dernières années, là, CNC a engagé quand même plusieurs nouveaux employés. On va avoir des ressources qui vont travailler sur ce site-là, c'est certain, là, parce que une fois qu'on protège un site, on pense que c'est le gros bout, c'est de le protéger, puis qu'après ça, c'est de la petite bière, comme on dit, mais c'est pas le cas. Le gros du travail vient une fois que c'est protégé, tout au niveau de ce que nous, on appelle dans notre jargon l'intendance, c'est-à-dire de prendre soin, de veiller à ce territoire-là à perpétuité. Donc, dans les premières années, on a beaucoup, beaucoup de travail au niveau de la réalisation d'inventaire au niveau floristique, mais faunique également, au niveau parfois aussi de restauration de certains habitats. Donc, c'est sûr qu'on va avoir là, beaucoup de ressources, autant chez nous qu'au niveau de nos partenaires aussi qui vont collaborer avec nous là, pour s'assurer là, de bien mettre en place là, notre intendance pour le site.
Eh bien, merci. Bien, c'est intéressant. Du coup, ça, on voit qu'on peut mener augmentation de l'emploi et régler des problèmes environnementaux. On peut lier l'environnemental et le social. Donc, c'est intéressant. Merci pour votre réponse. Je vais laisser la parole à mon collègue Marc-Antoine.
Merci, Enzo. Je vois que le temps file, donc je vais poser brièvement une dernière question. Quels sont les impacts sur l'environnement à court terme dans l'achat d'une propriété de la sorte et les impacts sur le long terme? Comme on sait, l'environnement, c'est un enjeu qui est très d'actualité, qui occupe beaucoup de place dans l'espace médiatique maintenant.
Oui, tout à fait. Dans le fond, l'impact à long terme, la raison pour laquelle on fait notre travail, c'est s'assurer de maintenir les milieux naturels à perpétuité. Donc, l'objectif, c'est que dans 100 ans, dans 150 ans, quelqu'un passe là, puis qu'on ait encore une immense forêt avec des beaux milieux humides, des ruisseaux sur le site. Donc, c'est de maintenir l'intégrité de l'habitat à perpétuité. Après ça, on s'entend, là, il y a des changements naturels qui peuvent survenir, là, mais on veut s'assurer qu'il n'y aura pas d'impact anthropique sur le site. Donc ça, c'est à long terme, je pense que c'est vraiment là, la volonté de ce qu'on a. À court terme, c'est sûr que, puis à long terme, il y a d'autres éléments aussi, là. Mais ce sur quoi on travaille, entre autres, c'est au niveau des puits de carbone. Donc, le site a été intégré dans un projet de crédit carbone forestier. Donc, les grandes forêts comme ça vont jouer un rôle super important pour la capture du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ça fait des puits. Ça évite aussi que ce dioxyde de carbone-là soit libéré dans l'atmosphère, par exemple, s'il y avait d'autres activités sur le site que de la conservation. Donc ça, c'est aussi un des éléments là, à moyen et long terme qu'on veut observer. Puis sinon, c'est ça. C'est vraiment de maintenir l'intégrité de l'écosystème, de contribuer au corridor écologique, puis de s'assurer là, que nos petits-enfants vont pouvoir profiter de sites de ce type-là dans le futur.
Merci beaucoup pour l'entrevue. Les réponses étaient très intéressantes, le sujet aussi.
C'est ça. En gros, merci pour l'entrevue. J'espère que ça vous a plu, autant que ça nous a plu. Je suis vraiment content des réponses que vous avez données, même si vous avez eu à me faire prononcer ce mot en anglais. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Ça m'a fait plaisir.
J'imagine. J'invite à tous ceux qui nous écoutent de nous revenir après une petite pause musique. Merci.
Merci beaucoup. Bonne journée.